Immaculate, bonjour. Jocelyne, bonjour. Jean-Gilbert, aux amis, bonjour. Natacha, Indirène, petite famille, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Julie, bonjour. Manon, André, bonjour. Jeudi 17 mars, et 17 est le chiffre à retenir, puisque aujourd'hui on devrait avoisiner ce chiffre-là en nombre de degrés qu'on va atteindre. Alors on nous dit qu'aujourd'hui il va faire entre 15 et 17, ce qui devrait réjouir la majeure partie d'entre vous. Donc beaucoup d'eau à prévoir, la neige qui fond, les rues toutes sales, les découvertes en dessous de la neige fondue, tout ça, le charme du printemps, dit-on. Donc si j'arrive à vous convaincre de nous accorder encore quelques tempêtes de neige, mais je suppose que je vais être le seul là-dedans, peut-être avec Gérard en fait. Moi je prendrais bien une autre bonne tempête là, une vraie, un 30 cm. Mais bon, ça doit être peine perdue, rendu au 17 mars. Remarquez qu'il y a quelques années, je m'en rappelle parce que je donnais un cours ce samedi-là, le samedi 1er avril, il était tombé quelque chose comme 35 cm. Je me rendais vers l'église et entre le métro Beaubien, à l'époque, j'avais pas de voiture. Entre le métro Beaubien et l'église, il fallait marcher dans la rue tellement il y avait de neige. Les trottoirs étaient impraticables. Le samedi 1er avril, je ne me rappelle plus quelle année. Ça devait être quelque chose comme autour de 94 ou 95 peut-être. Peut-être 93. Bonjour Roland, bienvenue parmi nous. Laurent Roland, la Durantais. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue parmi nous. Bonjour à ma mère et à mon père. Il vous reste encore un bon 6 minutes avant qu'on ne débute ce matin, donc vous pouvez toujours aller vous chercher un café, un thé. Demain, il va faire un peu moins chaud, mais quand même encore tout à fait acceptable pour vous. Autour de 10 degrés demain. Puis durant le week-end, de la pluie, mais toujours au-dessus de 0, donc 5, 6, 7 degrés par là durant le week-end. Gérard, bienvenue. Denise, bienvenue. Gérard, je disais justement que, à part vous et moi, tout le monde doit être content du temps qui commence. Avec entre 15 et 17 degrés à Montréal aujourd'hui. Et je disais que moi, j'attendais encore une tempête d'une trentaine de centimètres, mais que c'était probablement peine perdue. Mais je sais que vous me comprenez, Gérard. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à la belle-mère. C'est très gentil, Rolande. Soyez bénie. Sans indiscrétion, Roland, vous nous regardez d'où? Vous êtes situé dans quel coin? Et peut-être que c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, mais qui a juste un autre pseudo aujourd'hui. Je sais pas. En tout cas, soyez bénis, on est content de vous avoir avec nous, Roland. Bonjour, Guy. Pourquoi tu me dis bon printemps, Guy? Tu m'attristes. Bon, tu vas me dire que bientôt je vais pouvoir aller dans la cour avec la guitare et jouer la guitare dehors, ce qui est effectivement une bonne chose, mais moi je me serais encore attendu à d'autres, un peu plus de neige. Non, ma mère me dit 1999, mais c'était avant ça. Vous étiez encore en France. C'était peu de temps après. Peu d'années après le mariage, on habitait encore sur la jeunesse. Rachel, bonjour. Bonjour à Mona, Chantal, Ocilia. C'est très gentil, Gérard. Bonjour, Pascal. Pascal, aviez-vous été capable de parler avec mon ami? Je sais qu'il est rendu à Beyrouth, mais je ne savais pas si vous aviez pu parler avec lui avant, s'il avait pu vous contacter. Natacha, je te fais rire. C'est une bonne chose. Bonjour Yolaine, ça fait quelque temps, sois bénie. Alors, de Longueuil, vous avez la même température que nous, Roland. Il fait pas plus beau, pas moins beau. C'est la même chose. Il y a juste un pont souvent encombré qui nous sépare, mais en fait trois ponts souvent encombrés qui nous séparent, mais c'est la même température. Oh, tu donneras un gros câlin à mon ami Marcus, Claude. Navré d'entendre qu'il ne va pas bien. Dis-lui que je prierai pour lui. J'espère qu'il se portera mieux. Marie-Marthe, bonjour. Peut-être que j'en ai parlé avec lui trop tardivement, Pascal. Désolé. Je croyais qu'il partait le lundi, mais il est peut-être parti plus tôt que ça, en fait. Désolé, désolé. Francine, bonjour. Mais l'ami voyage assez régulièrement vers le Liban. C'est une ou deux fois par année minimum. Donc, dès que je saurai qu'il voyage encore, je vous laisse savoir. Là, je l'ai appris un peu sur le tard. Je suis désolé. Bonjour Daniel, que Dieu te bénisse. Bonjour Francine. En fait, Pascal, son oncle était un des plus grands évangélistes au Proche-Orient. Donc, Syrie, Liban, Égypte, il était très connu. Il est décédé maintenant. Il est très connu dans la communauté arménienne. Et puis, bien sûr, dans la communauté évangélique en soi au Proche-Orient. Son neveu, qui est mon ami, a un peu pris sa place au niveau on va dire je vais pas dire grandeur, mais au niveau de la réputation, le fait qu'il soit bien connu. Donc, mon ami est aussi bien connu au niveau des églises au Proche-Orient. Bonjour au frère Bova et à la petite famille. Donc, je ne sais pas si c'est le frère Bova lui-même ou si c'est son épouse qui nous regarde, mais on vous salue. Bienvenue parmi nous encore ce matin. Bonjour Babette, bonjour Andreas. Hermana Argelia, que Dios me la bendiga. muy gozo de verla con nosotros esta mañana. On vous rappelle juste avant qu'on débute les informations pour les prochains jours. Donc, qu'y a-t-il ce soir? Donc, il n'y a pas de réunion puisqu'on est jeudi. Demain, c'est jeûne et prière. Donc, réunion deux fois demain à 8h30 comme ce matin. Ça sera consacré à la prière. Et puis, à 19h demain soir. Pour dimanche, bien entendu, les assemblées sont en présentiel. Mais l'assemblée est en présentiel à 10h, mais elle est aussi diffusée sur les plateformes Internet habituelles. Pour ceux qui aimeraient venir, c'est bien entendu libre à vous tous. La seule restriction, c'est que on demande toujours, pour le moment en tout cas, le port du masque pour toute personne âgée de 6 ans et plus, à moins qu'il y ait une condition médicale qui aille dans un sens contraire. À 10h dimanche matin. Pour l'assemblée générale des membres, donc la réunion financière ou la réunion d'affaires, comme vous voulez l'appeler, c'est à 14h et ce sera sur le réseau Zoom. Pour avoir accès à cette réunion, il faut que votre nom figure sur la liste des membres dans la dernière mise à jour, bien entendu, de la liste des membres. Donc, si vous ne recevez pas actuellement des courriels de la part de l'Église lorsqu'on se connecte sur Zoom et qu'ils vous disent comment vous y connecter, ça veut dire que votre nom n'y figure pas. Donc, si vous voulez avoir accès à la réunion de dimanche après-midi 14h sur Zoom, il faut donc que votre nom figure sur la liste. Pour ce faire, vous nous écrivez avec vos coordonnées, votre nom, numéro de téléphone, adresse et adresse courriel. Et on s'assurera que tout cela soit rentré dans nos dossiers d'ici la réunion de dimanche après-midi. Alors voilà, on va prier maintenant. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette grâce de pouvoir plonger nos regards dans ta parole. Pour cette grâce de pouvoir l'étudier et être rassasié, béni, fortifié par elle. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre pensée. Et qu'en toute chose, Seigneur, que ce soit à travers nos mots, nos gestes, nos pensées, nos réactions, nos actions, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, on se rappelle que nous étudions cette semaine la thématique Seigneur, si tu eusses été ici, Seigneur, si tu avais été ici. Et c'est cette histoire où Jésus va aller avec ce qui semble aux yeux humains, 4 jours de retard, guérir son ami, ressusciter en fait son ami Lazare qui est donc décédé depuis 4 jours. Et Seigneur, si tu eusses été ici, est une phrase que Marthe tout d'abord, puis Marie vont adresser à Jésus en l'abordant et en disant Seigneur, si tu avais été ici, notre frère Lazare, celui que tu aimais, ne serait pas mort. Donc on a parlé de la question de Seigneur tout d'abord, lundi, en disant que ce n'était pas de fausses chrétiennes, ce n'était pas de fausses croyantes, ce n'était pas de fausses amies de Jésus, puisque la Bible nous dit que Jésus les aimait, Marthe, Marie et Lazare. Et c'est rare dans les évangiles où on voit un passage qui nous montre cette affection que Jésus peut avoir à l'égard d'autrui, à l'égard de certaines personnes qui les entourent. Donc dans Jean, on va mentionner notamment Marthe, Marie et Lazare, et de surcroît cela, on va parler aussi de Jean, qui était peut-être un préféré jusqu'à un certain point, en tout cas c'est Jean qui le dit, par rapport à Jésus. Et donc on a vu qu'elle n'était pas... Elle ne menait pas une fausse vie chrétienne et que pour nous c'était un enseignement comme quoi il arrive effectivement que dans notre vie, malgré notre statut de chrétien, malgré le fait qu'on soit croyant, malgré le fait que nous ayons une bonne relation avec Jésus, nous passons par des temps de tempête, nous passons par des temps de tribulation, nous passons par des temps qui peuvent être stressants et malheureux dans certains cas, mais que ce n'est pas... notre relation avec Jésus qui serait mal en point et qui ferait une telle chose. C'est tout simplement que nous sommes humains et que, étant humains, on passe tous par des moments difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit la mort d'un proche, mais qu'en tant que chrétiens, nous avons cette assurance que Jésus est vraiment à nos côtés et il nous faut le rappeler. C'est ce qu'on s'est dit hier lorsqu'on parlait sur ce questionnement, pourquoi Jésus n'était-il pas là? Donc, parfois, on va se présenter, on va prier et on va effectivement trouver que le Seigneur n'est pas au bon endroit ou que le Seigneur n'est pas dans le bon temps ou que le Seigneur n'a pas fait la bonne action. Et ce faisant, on est en train de critiquer Dieu. Lorsqu'on questionne, en fait, la pertinence de ses décisions, on est en train de dire, mais c'est pas ce que moi j'aurais fait. Donc, par conséquent, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Lorsqu'on demande au Seigneur, où étais-tu? Pourquoi es-tu arrivé en retard ou à cette heure-là, on est en train de lui dire, tu n'étais pas au bon endroit, tu n'étais pas dans le bon lieu. Et on continue aussi en disant, ben, c'est de ta faute si mon frère est mort, puisque tu n'étais pas là, puisque tu n'étais pas là au bon moment, mon frère est mort. Et on rejette la culpabilité sur le Seigneur. Et on s'est dit que c'était quelque chose qu'il nous fallait abandonner, prendre de la maturité et revenir aux bases de notre foi, comme quoi Jésus fait toutes choses parfaites en son temps et que Jésus est absolument, totalement, constamment à nos côtés, que nous soyons dans de bons moments où on le remarque et dans de bons moments où très souvent on l'oublie parce qu'on se réjouit à d'autres choses, ou qu'on passe par des moments difficiles et dans lesquels parfois on essaie de se dépêtrer tout seul sans reconnaître la présence et l'action de Jésus à notre égard. Aujourd'hui, on va expliquer pourquoi Jésus a fait ce qu'il a fait. La Bible nous dit, et puis on va relire le passage tout à l'heure, mais la Bible nous dit que Jésus va attendre encore 4 jours avant mais 2 jours supplémentaires, donc 4 jours après la mort de Jésus, de Lazare, c'est là qu'il va arriver. Il reçoit la nouvelle comme quoi Lazare est malade. Il va rester encore 2 jours supplémentaires là où il est et va arriver donc après 4 jours à l'endroit où Lazare à Béthanie est mis en sépulture. Alors je lis pour vous dans Jean 11 et puis je vais commencer à partir du verset 12 ou à partir du verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit en moi et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux vers en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Comme je l'ai dit ce matin, on voit pourquoi Jésus a fait ce qu'il a fait. Le premier point, et je relirai pour vous un verset qu'on n'a pas lu ce matin, mais qu'on a lu au cours de la semaine, le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu, soit glorifié par elle. » Pourquoi Jésus a-t-il fait ce qu'il a fait? Pourquoi a-t-il attendu? Pourquoi a-t-il attendu que la mort ait gagné du terrain sur Lazare et que Lazare ait été enseveli? Premièrement, parce qu'il avait affirmé au tout début, cette maladie n'était pas à la mort. Et ça, c'est un concept qu'on doit comprendre. On aimerait que toutes les maladies ne soient pas à la mort. On aimerait que dès qu'un chrétien est malade, que l'on puisse affirmer sur toute maladie que celle-ci n'est pas à la mort, mais qu'elle est à la gloire de Dieu. Quand Jésus disait que cette maladie n'était pas à la mort, c'est que cette maladie ne pouvait pas se solder par la mort. Est-ce que ça veut dire que toutes les maladies ne se soldent pas par la mort? Absolument pas. On voit des gens tout autour de nous, des croyants, des enfants de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu, dans toute l'histoire de l'Église, qui sont effectivement morts de maladie. Je crois que c'est même Élisée, si je ne m'abuse, où la parole de Dieu nous dit qu'Élisée mourut de la maladie qui l'affligeait. Ça veut donc dire que Élisée, ce grand prophète, qui avait le don de guérison, qui a ressuscité des morts, malgré tout, lui-même est décédé d'une maladie. Pourquoi y a-t-il des maladies qui mènent à la mort? Mais parce que, à moins qu'une maladie ne soit guérie, c'est ce qu'elle va entraîner inévitablement. Elle va entraîner une détérioration de l'état physique, elle va entraîner une dégénérescence du corps physique et qui, à moins d'un médicament, à moins d'une opération, à moins d'une intervention miraculeuse de Dieu, va entraîner la mort. Dieu parfois, oui, utilise la maladie pour amener certains de ses enfants vers lui dans l'éternité. Dieu parfois effectivement va permettre que la maladie emporte quelqu'un, et j'aime pas tellement dire le terme emporter, mais fasse transitionner quelqu'un entre cette vie terrestre et l'éternité. Et ça on doit l'accepter. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que s'il y a des maladies qui ne sont pas à la mort, ben parfois Il y a aussi des maladies qui sont à la mort. Alors Dieu pourrait décider effectivement que moi, un de mes proches, quelqu'un qui m'écoute ce matin, que ce soit à travers la maladie, qu'il ramène son enfant près de lui. On a tous eu des proches, on a tous connu des serviteurs de Dieu qui ont été effectivement amenés dans l'éternité avec la maladie. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Malheureusement, très régulièrement, on va proclamer à la maladie de reculer, on va proclamer même dans certains cas la guérison. Certains vont avoir l'audace de dire à des gens qui sont malades, « Tu es guéri au nom de Jésus. » Mais on ne peut pas dire une telle chose si Jésus n'a pas dit que cette personne est guérie. Certains font l'erreur de croire que Jésus guérit tous les malades. Non, la Bible nous dit qu'il guérit toutes les maladies. Ça veut donc dire qu'il a le pouvoir sur toute maladie. Est-ce que par conséquent, il guérit tous les malades? Assurément pas. En Israël, on s'entendrait tous pour dire que même à l'époque de Jésus, il restait encore des malades en Israël. Ce ne sont pas tous les malades d'Israël qui ont été guéris. Prenons simplement le cas lorsque Jésus était à la piscine de Bethesda ou de Bethsaida. Lorsqu'il était à la piscine, et on se rappelle cet endroit où la tradition disait qu'il y avait un ange qui descendait occasionnellement du ciel et qui agitait l'eau. Et la première personne qui se précipitait dans l'eau, après que l'eau était secouée, sortait guérie. Alors assurément, lorsque Jésus se pointe à cette piscine, il y a assurément plus que le paralytique qui est là. Paralytique lui dit, malheureusement, à cause de ma condition, quand l'eau est remuée, j'arrive pas à tomber le premier dans l'eau et j'ai personne pour me jeter à l'eau. Ça veut donc dire que d'autres sont guéris. Ça veut donc dire qu'il y a d'autres malades qui sont autour de cette piscine, de surcroît à ce paralytique. Et que va faire Jésus? A-t-il guéri tous les malades qu'il y avait ce jour-là à la piscine? Non. Il a simplement guéri le paralytique. Donc Jésus ne guérit pas systématiquement tous les malades. On ne peut pas proclamer à quelqu'un qu'il est guéri, à moins que Jésus l'ait clairement dit. Et je dis qu'il l'ait clairement dit. Pas j'ai le feeling que, pas je pense que, pas je souhaite que, pas je proclame par la foi que. Non, la foi doit s'exprimer sur quelque chose qui a été dit par la bouche de Dieu. Dans ce cas-ci, Jésus savait que cette maladie n'était pas à la mort. Alors, je ne peux pas m'approcher de quelqu'un puis proclamer la guérison, à moins que Jésus m'ait clairement indiqué que cette guérison allait venir. Par contre, je me dois de prier pour tous les malades. Mais chaque prière devrait toujours terminer. Et c'est là où on oublie le Notre Père. Chaque prière devrait terminer par « Que ta volonté soit faite ». C'est les bases même de la prière selon ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Malheureusement, on a oublié ce fait. On omet cette mention « Mais en toute chose que ta volonté soit faite ». Pourquoi? Très souvent, c'est que ouais, mais tout d'un coup, que la volonté de Dieu ne soit pas celle que moi j'espère. Alors, je lui pose ma requête en espérant qu'il va obtempérer, même si ce n'était pas vraiment sa volonté. Laisse-moi te dire une chose en partant. T'as beau prier, si ce n'est pas sa volonté, Dieu ne va pas le faire. Dieu fait ce qu'il sait parfait en tout temps. Donc, tu aurais beau omettre de dire que ta volonté soit faite, tu n'es pas en train de tordre le bras de Dieu, puis tu n'es pas en train de le pousser à faire autre chose que ce qu'il s'est approprié. Par contre, si tu es un digne représentant du royaume de Dieu, si tu veux faire les choses correctement, si tu veux prier et avoir de l'efficacité dans ta prière, il faut donc que tu pries en accord avec la pensée de Dieu. Les Écritures vont nous dire, vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal, vous priez pour satisfaire vos passions, vous priez pour satisfaire vos ventres. Ça veut donc dire que parfois, oui, on est en train de prier, mais simplement en pensant à notre état à notre pensée, à notre désir, en omettant de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Dans ce cas-ci, pourquoi? Je ne saurais vous dire, mais Jésus, Dieu, avait décidé que Lazare ne devait pas mourir pour le moment. Donc, lorsqu'il est arrivé au tombeau, parce qu'il l'avait déjà dit, que cette maladie n'était pas à la mort, mais à la gloire de Dieu, il a donc effectivement guéri Lazare. Cette maladie n'est pas à la mort, mais est à la gloire de Dieu. Il y a des maladies à travers lesquelles le Seigneur se glorifie. J'ai eu cette pensée quand moi-même je suis tombé malade. Et j'ai dit à mon épouse à l'époque, on ne savait pas encore le verdict, on ne savait pas encore le diagnostic. Je savais qu'on allait retirer une masse à la cheville, mais je n'avais pas encore toutes les indications. Et dans un moment très inopiné, absolument inadéquat, on était en train de déjeuner. Mais comme on n'était pas tellement loin de l'hôpital où j'allais être opéré, puis je pense que c'était dans la semaine qui allait suivre que j'allais avoir l'opération à la cheville, sans prévenir, j'ai oublié l'expression, mais sans prévenir, j'ai dit à mon épouse, bon ben, il faut que tu comprennes que moi je sais que ce que veut dire une masse. Une masse peut être une tumeur bénigne, puis peut être une tumeur maligne. Et j'ai dit, il faut se préparer à ça. Et je lui ai dit, mais si effectivement Dieu veut se glorifier avec une maladie, ou veut se glorifier dans une maladie, ben à ce moment-là, la maladie, je ne pense pas que ça va être simplement un petit mal de tête. Il n'y a pas grande gloire à tirer d'une petite céphalée. Je lui ai dit, mais assurément, s'il veut qu'on passe par là, ça sera certainement difficile, ardu et demandant, mais c'est là où il tirera plus de gloire. Mon épouse m'a regardé et les larmes aux yeux, la boule dans la gorge, puis elle dit, tu veux vraiment parler de ça ici? Et j'en conviens. Il y a des jours comme ça où j'ai une crampe de cerveau, comme on dit au Québec, et c'était absolument pas l'endroit où en parler, ni le contexte par lequel amener le sujet, mais le sujet était traité dans le sens où on devait comprendre que Dieu choisirait si cette maladie allait m'emporter ou pas, et que s'il devait se glorifier, cette maladie serait difficile. Dans mon cas, il a décidé d'intervenir. Je suis vivant 6 ans plus tard, en rémission 6 ans plus tard. Pourquoi a-t-il choisi ça? Tout simplement parce qu'il voulait se glorifier à travers ce chemin. Pourquoi a-t-il choisi autre chemin? Pour certains de nos proches, je pense particulièrement à celui qui m'a précédé comme pasteur responsable de l'Église, pourquoi il a décidé de ne pas le guérir à lui? Dieu seul le sait. Mais assurément, il s'est glorifié d'un serviteur qui est rentré à la maison, fidèle, ayant accompli le travail qu'il devait accomplir. Donc une maladie peut soit amener à la mort, soit Dieu peut intervenir, mais peu importe ce qui va se passer, la gloire va aller à Dieu. Dans le verset 15, on nous dit, et c'est notre deuxième point ce matin, verset 15, même au verset 14, « Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Parfois, Dieu permet la maladie, et Dieu permet une certaine latence dans le temps où il y a un certain, entre guillemets, retard, un certain délai dans la guérison, tout simplement pour apprendre des choses à ses disciples. Ici, Jésus parlait à ses proches qui avaient été avec lui depuis déjà des mois et des années, qui l'avaient vu œuvrer, et Jésus leur disait, mais à cause de vous, je suis content que je n'étais pas avec Lazare au moment où Lazare est tombé malade. Alors, qu'est-ce que voulait Jésus? Jésus voulait marquer la pensée de ses disciples. Et il savait que s'il attendait que Lazare soit mort et que ses disciples assistaient à la résurrection, que cela allait marquer leur pensée. Les disciples ont pu croire à la résurrection de Jésus parce qu'ils avaient déjà expérimenté celle de Lazare. Les disciples, plus tard, pouvaient prêcher la résurrection des morts parce qu'ils avaient vu d'abord Jésus ressuscité Lazare et Jésus être lui-même ressuscité. Alors il n'avait aucune honte, aucun esprit chétif, aucune timidité, aucune crainte à prêcher la résurrection parce qu'ils avaient déjà vu Jésus opérer une résurrection et être lui-même ressuscité par la puissance de Dieu. Alors Dieu parfois choisit de ralentir le processus ou choisit d'attendre contrairement à nos demandes pour intervenir dans un sujet ou dans un autre, tout simplement pour favoriser la foi et développer la maturité spirituelle chez ses disciples. Au verset 41 et 42, qu'on a lu tout à l'heure et que je répète pour vous, « Alors ils ôtèrent la pierre, Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » La troisième raison pour laquelle Jésus va attendre, c'est en raison de la foule qui est autour. Pour que la foule remarque que Jésus avait été réellement envoyé par Dieu. Donc parfois le Seigneur attend un meilleur contexte, un meilleur moment, attend l'arrivée d'un certain groupe de personnes avant d'opérer. Et assurément, pour nous qui aimons les choses spontanées, les choses instantanées, on aimerait passer dans un service à l'auto divin. Tu es malade, tu passes par le drive-thru, comme on dit au Québec, tu passes par le service au volant et puis tu obtiens ta guérison. On aimerait avoir des micro-ondes spirituelles. Tu as une maladie, tu la mets dans le micro-ondes, tu appuies sur le bouton et en 30 secondes, ça sort bien chaud. Voilà comment on aimerait que le Seigneur opère. Mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre. La pensée de Dieu n'est pas la nôtre. Et parfois, le Seigneur attend un certain contexte qu'il sait préférable, qu'il sait meilleur. Puisque ici, on nous dit que la maladie n'était pas à la mort, mais était pour la gloire de Dieu. Donc, Dieu sait à quel moment le paroxysme de l'effet ou l'effet maximal de cette guérison et de cette résurrection serait obtenu. Alors, pour Lazare, il a connu la mort. Pour Marthe et Marie, elles ont connu 4 jours de deuil, l'agonie de leur frère, plus 4 jours de deuil. Pour ceux qui étaient là, proches de Lazare, c'était assurément un retard sur ce qu'ils auraient aimé. Ils n'auraient pas voulu que leurs proches meurent, ils n'auraient pas voulu que Lazare meure. Mais Jésus a délibérément attendu parce qu'il savait qu'au moment où il arriverait, il y aurait cette foule qui serait là, qui devait voir, entendre et connaître que Christ avait été effectivement envoyé. C'est encore plus marquant dans le tout dernier verset qu'on a lu, le verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Plusieurs des Juifs qui étaient venus, donc qui avaient quitté Jérusalem, qui étaient allés jusqu'à Béthanie, et qui avaient accompagné à Béthanie dans leur deuil Marthe et Marie, ces Juifs qui étaient sortis de la maison en même temps que Marie parce qu'ils pensaient qu'elle s'en allait au sépulcre pleurer, qui avaient entendu Jésus demander où il était, qui avaient entendu Jésus demander à ce qu'on roule la pierre, malgré l'objection de Marthe qui disait que son frère assurément sentait déjà, son corps était déjà en train de rentrer en putréfaction. Donc, ils ont entendu tout ça, ils ont vu et entendu Jésus crier au ciel « Lazare, sort !» et ils ont vu Lazare, non pas comme un Maccabée, mais entouré effectivement des bandes, du linceul sur le visage, sortir du tombeau. Et parmi ces Juifs qui étaient là, plusieurs, la Bible nous dit, crurent en Jésus. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. On ne sait pas ce que Dieu va faire avec nos vies. On ne sait pas ce que Dieu fait avec une présence à l'hôpital. Je ne le savais pas plus, Lorsque moi je suis passé par la chimiothérapie, lorsque je suis passé par la maladie, je ne savais pas ce que Dieu était en train de faire, je ne savais pas combien de temps ça durerait. Mais je m'assurais d'une chose, qu'à chaque fois que j'allais à l'hôpital, je fasse un pied de nez à la maladie, que je fasse une grimace à la maladie, que je fasse une grimace au traitement que je recevais. Et cette meilleure grimace qu'on pouvait faire, ce meilleur pied de nez que je sentais pouvoir faire, c'était de parler de Jésus autour de moi. Alors à chaque fois que j'allais recevoir la chimiothérapie, vous pouvez être certain que je trouvais quelqu'un, voire même plusieurs personnes, à qui je parlais de Jésus. Mes infirmières, assurément, mes médecins, assurément, mais aussi souvent plusieurs patients. Il est arrivé même des occasions où les infirmières me disaient, Pasteur, lorsque vous aurez terminé, où j'avais souvent allé à la toilette pour voir quel était le niveau d'urine que je donnais et tout ça. Donc, je devais me déplacer régulièrement. Puis elle me disait, Pasteur, de l'autre côté du mur, il y a un patient qui l'a difficile aujourd'hui. Il y a un patient qui nous fait des troubles aujourd'hui. Ou il y a un patient qui est vraiment pas bien. Pourriez-vous, en revenant, vous arrêter simplement lui dire un petit mot, discuter avec lui? Donc je prenais chacune des occasions qui m'étaient offertes, malgré que je ne comprenais pas ce qui se passait, malgré que je ne comprenais pas le plan de Dieu, pour me dire, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de Jésus. Alors je ne sais pas où tu vas ce matin, je ne sais pas où tu vas aujourd'hui, je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves aujourd'hui, je ne sais pas quelle est l'épreuve dans laquelle tu es, pour laquelle tu aurais aimé que Jésus intervienne plus tôt, au lieu de te morfondre. Au lieu de sombrer dans la déprime, utilise cette occasion pour proclamer le nom de Jésus. Proclame-le d'abord pour ton âme. Je disais à quelqu'un cette semaine qui passait par un moment difficile, tu vas sortir, tu vas prendre une pause, et pendant ta pause, tu vas aller dire à Jésus, Jésus, tu es vraiment ici. Il ne va pas te réfugier dans un bureau, il va pas te réfugier dans un placard. Prends du temps pour t'aérer et en même temps pour prendre un moment spécifique dans lequel tu parles à Jésus et tu proclames, Jésus, même dans cette situation, tu es ici. Donc parle à ton âme aujourd'hui, mais aussi prends toutes les occasions pour parler à quelqu'un de Jésus. Tu sais qu'il est à tes côtés, tu sais qu'il n'est pas en retard, tu sais qu'il est à l'œuvre, tu sais qu'il veille sur toi, peu importe ce que demain te réservera. Peu importe ce que l'après-midi même aujourd'hui te réservera, tu sais que Jésus est à tes côtés. Alors ce matin, parle de celui qui est à côté de toi, à quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne peut pas le sentir, qui ne le voit pas et qui pourtant a tellement besoin de lui. Lorsque j'étais dans ces moments de chimiothérapie, je savais que l'ensemble du département avait besoin d'entendre parler de Jésus. Ceux qui étaient malades, ceux qui accompagnaient les malades, les infirmières qui s'inquiétaient pour leurs patients, les infirmières qui avaient elles-mêmes des parents qui étaient malades, avaient besoin d'entendre parler de Jésus. Et moi, j'étais là, sans savoir pourquoi j'étais là, mais en sachant que j'avais une mission. Il y avait des gens qui avaient besoin d'entendre parler de Jésus. Est-ce que certains ont été sauvés? Simplement l'éternité nous le dira. Mais j'aurais fait mon travail en étant à mon poste et en proclamant que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Alors Jésus est avec toi, parle de lui. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? La prière n'est pas répondue toujours instantanément. Une prière de guérison, avant qu'on proclame la guérison sur quelqu'un, il faut que Dieu nous dise clairement que cette guérison va avoir lieu. Sinon, c'est de la présomption. Ce n'est pas de la foi, c'est de la présomption. La foi est bâtie sur ce qu'on entend. Alors, à moins que Jésus dise clairement, voici, je guéris telle personne, tu dois t'abstenir. Par contre, tu pries pour la guérison, tu chasses la maladie au nom de Jésus. Mais en bout de ligne, tu termines en disant, mais Seigneur, en toute chose, que ta volonté soit faite. Tu comprends aussi que le Seigneur peut retarder par rapport à tes plans initiaux sa guérison, sa délivrance, son intervention, parce qu'il a des choses à t'enseigner à toi en tant que disciple, parce qu'il a des gens à atteindre qui ne sont pas encore arrivés, qui ne sont pas encore là. et qui doivent être atteints par ce que lui fera ou ce qu'il dira au moment approprié. Et parce que ta maladie va t'amener à rencontrer quelqu'un dont la conversion, dont le salut, dont l'éternité dépend que tu sois au rendez-vous, même dans cet endroit, malgré le deuil, malgré la maladie, malgré la tristesse, malgré le désarroi. Alors prions. Seigneur, merci de nous rappeler à l'ordre. Merci de nous rappeler que notre temps n'est pas ton temps et ton temps n'est pas notre temps. Ton temps est parfait, le nôtre est imparfait. Ton temps est connu d'éternité, n'a aucune faille, alors que notre calendrier est motivé par des choses égoïstes, égocentrées, futiles régulièrement, pensant tout simplement à nous et en n'ayant pas en vision le grand portrait, si important toutefois, qu'est le plan du royaume de Dieu. Alors je prie, Seigneur, que nous puissions tous et chacun accepter ton temps, accepter ta façon de faire, sachant que tout ce que tu fais est toujours parfait. Parfait dans l'action, parfait dans la motivation, parfait dans la vision, parfait aussi dans le temps. Bénis ma sœur aujourd'hui, tu sais où elle va aller, tu sais ce qu'elle va faire, tu sais qui elle va rencontrer. Bénis mon frère dans tous ses déplacements, où qu'il aille, quel que soit le moment où il s'y rendra. Nous ne sommes pas, Seigneur, des fruits des coïncidences. Nous ne vivons pas sous le joug du hasard. Nos vies sont guidées par toi. Tu nous amènes dans des endroits pour qu'on proclame ton nom. Alors aujourd'hui, Seigneur, que tes enfants qui entendent cette parole soient armés de cette pensée, de proclamer ton évangile, quel que soit l'endroit où ils iront. Et merci, Seigneur, des fruits éternels qui découleront des actions posées aujourd'hui. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors, on vous rappelle deux petites choses, deux ou trois petites choses importantes. Ce soir, il n'y a pas de réunion, on est jeudi, donc vous avez soirée libre. Demain, on a deux réunions, c'est journée de jeûne et de prière le vendredi. Donc, réunion demain matin à 8h30, puis réunion à 19h pour notre temps de prière et d'intercession, comme on a tous les vendredis soirs. De surcroît à cela, dimanche, on a deux rencontres, en présentiel le dimanche matin et bien sûr en ligne à partir de 10h. On vous rappelle qu'il n'y a plus de restrictions. Quant à venir, il n'y a pas de restriction d'âge, il n'y a pas d'inscription nécessaire, il n'y a plus de distanciation. La seule chose qu'on demande encore aux églises pour le moment, c'est de garder le port du masque. Et on vous rappelle que les enfants, dimanche, toutes les classes vont être ouvertes pour l'école du dimanche. Alors, on vous invite à être nombreux avec vos enfants dès dimanche matin. De surcroît à cela, dimanche après-midi à 14h, on a notre assemblée générale, donc la réunion d'affaires, la réunion financière de l'église. C'est à 14h et c'est sur la plateforme Zoom. Si vous voulez y avoir accès, votre nom doit figurer sur la liste des membres de la congrégation. Donc, par conséquent, on vous demande si vous ne recevez pas actuellement des mémos de l'Église pour les connexions Zoom. Donc, ça veut dire que votre nom ne figure pas sur la liste. On vous demande donc d'écrire à secrétariat EAJC, en un seul terme, en un seul mot, secrétariat EAJC, pas d'accent, pas de distance entre les mots, à commercial@gmail.com. Secrétariat EAJC, à commercial@gmail.com. Vous nous donnez votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel, votre adresse civique, et comme ça on pourra vous inscrire sur la liste des membres. Et dimanche matin, vous recevrez deux avis. Le premier concernant l'assemblée du dimanche matin, le culte régulier, puis un peu plus tard, le code pour avoir accès à la réunion d'affaires ou à l'Assemblée générale des membres. Alors voilà, c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci d'avoir été là. Et on se retrouve demain matin. Au revoir tout le monde.